Boston en Grande-Bretagne, mais Manu dans l'intégral foot sur RMC. Retour au Stade de l'Aube pour la quatrième journée de Ligue 1, la deuxième période de ce match entre Troyes et Monaco. Fred Joly, les Troyens sont menés 1-0, ça va repartir dans quelques secondes.
Ils sont revenus sur la pelouse, les deux équipes ont repris place, on attend encore quelques instants du côté de monsieur Johan Hamel pour donner le coup d'envoi. Voilà qui est fait, coup d'envoi de cette seconde période donnée par les Monégasques, qui met le score avec ce but de Diop à la 40e, et un premier ballon qui vient dans l'espace de réparation de Gallon. Tranquillement, le portier au bois peut capter cette balle. Vous savez qu'il y a un Rémois qui doit se mordre un petit peu les doigts, car il va manquer ce soir le match, the match.
Lionel Messi.
Chavalérin, le milieu de terrain Rémois, il vient de signer à 3 pour 3 ans.
Il a signé quand aujourd'hui?
Apparemment il a signé, ouais, il a signé pour 3 ans et il arrive de Reims, donc il n'aura pas eu la chance d'assister au grand début de Messi à Reims. Ouais. Ça s'appelle de ne pas avoir de bol quand même.
Oui, mais il le croisera plus tard dans l'année. Voilà, il est pas parti non plus.
Ils ont joué il y a 15 jours.
Ils ont joué
en
première journée.
Oui, mais au
match retour, tu parles.
Alors, je vous rappelle qu'il y a 38 journées quand même.
Ah oui,
on
voit
chaque équipe deux fois.
C'est vrai.
Mais tu parles dans 6 mois ou dans 8 mois.
Alors, il faut savoir être patient parfois. Tout vient à point.
Espérons pour lui qu'il ne soit pas blessé.
Oui,
il n'y aurait pas de chance.
Là, ce serait vraiment pas de chance.
Quand le PSG est venu jouer, il n'y avait pas Neymar, il y avait Mbappé, en gros, il y avait plein de blessés. Donc les supporters au bois, ils n'ont même pas eu la chance de voir la grande équipe parisienne.
Ouais. Ils ont vu leur belle équipe troyenne faire un très bon match et ne s'incliner que 2-1, effectivement, pour ce premier match de la saison. Pas de changement pour cette deuxième période pour l'instant, Fred?
Pour l'instant, non. Après un peu plus d'une minute 30 de jeu, les Monégasques qui mènent 1-0 et les Monégasques qui sont en possession du ballon, aucun changement, que ce soit du côté Aubois ou du côté Monégasque, avec peut-être la récupération de Tousgar dans le rond central. Il peut glisser sur le côté vers Ripard qui a trouvé un coéquipier. C'est un petit peu fort et ça va être récupéré par le buteur Monégasque, Diop, qui peut lancer dans la profondeur. Attention à cette percée de Martins qui tombe dans la surface de réparation. Moi je trouve, alors Manu me dira ce qu'il en pense, moi je trouve qu'il est trop bien tombé. Trop joliment tombé.
pour influencer l'arbitre, trop bien tombé. Voilà, non, mais tu vois l'erreur. Que le latéral gauche fait, c'est que le ballon est à droite et il ne fait pas de couverture. Il se laisse prendre par Martin qui est juste devant lui, alors qu'il aurait, parce qu'il avait anticipé éventuellement une sortie de balle au milieu de terrain et pouvoir éventuellement être offensif. Mais quand on nous apprend, quand le ballon est à droite, il faut fermer, hein, parce que sinon tous ces ballons en profondeur peuvent être vraiment dangereux.
Bon, en tout cas, ça fait toujours 1-0 pour Monaco à 3. On y retourne dans un instant. Mais Fred, tu en parlais des débuts de Messi à Reims ce soir, 20h45 pour ce Reims-Paris-Saint-Germain en intégralité sur RMC. On va y aller tout de suite à Reims, retrouver Nicolas Pelletier, notre envoyé spécial dans la Marne. Nicolas, déjà pour rappeler que ça y est, Messi est arrivé, il est bien là, il est à Reims.
Oui, le Paris Saint-Germain est arrivé à Reims vers 13h15 avec Lionel Messi. Il n'est pas descendu dans les premiers, il est plutôt descendu dans les derniers du bus. Celui qui est descendu en tout dernier, c'était Kylian Mbappé. Plus de 200 supporters étaient présents, amassés autour des grilles dans le centre-ville de Reims. L'hôtel est en plein centre-ville de Reims. Il y avait plus de 200 supporters qui sont très rapidement partis après.
Ouais, Fred, le poteau troyen. Oh, le poteau, cette frappe de Biancone est venue s'écraser sur le poteau gauche de Nouvelle qui était trop court. Oh, c'était bien vu, un ballon qui est venu de la droite. Longue transversale, Nouvelle. Et c'est Biancone qui récupère cette balle, qui frappe. Il se remet sur son pied droit, il frappe. Et c'est le poteau qui sauve les Monégasques. On est reparti à 100 à l'heure du côté des Aubois, même s'ils sont menés 1-0.
Manu, c'est poteau intérieur, là c'est à 2 mm, ça rentrait. Hein.
Ah ben ouais, ouais, on voit ce ballon bien enveloppé de la part du joueur là, qui met ce ballon hors de portée de Nubert. Mais c'est une très belle action, hein, parce que même si ce centre est un peu manqué, il y a toujours quelqu'un au second poteau. Donc ça veut dire que dans l'esprit des Troyens, il y a une possibilité encore de pouvoir revenir. Il reste plus de 40 minutes encore à jouer. Donc c'est de bon augure pour cette deuxième mi-temps pour les Troyens, parce qu'ils vont jouer aussi peut-être avec la fatigue des Monégasques.
On y retourne dans un instant, mais on conclut à Reims avec Nicolas Pelletier, cet hôtel du Paris Saint-Germain où 200 supporters, c'est ça, parisiens, attendaient leur équipe.
Exactement, et ils sont partis très rapidement après. Et il y avait un élément important, il y avait un Jean-Marc, un ancien supporter parisien qui disait, c'est toujours impressionnant de voir Lionel Messi, c'est vrai, à quelques mètres, il était même pas à 5 mètres des caméras de télévision du monde entier qui étaient présentes là aux abords de l'hôtel. C'était vraiment assez impressionnant de le voir aussi près. Un moment historique aussi pour la ville de Reims, même si on n'en parle pas trop dans la rue. Depuis jeudi, on est là avec RMC et on parle beaucoup de l'avenir de Kylian Mbappé. Même les supporters parisiens qui étaient présents ici en parlaient beaucoup de l'avenir de Kylian Mbappé, pas trop de Lionel Messi. Et pourtant, c'est bien ce soir, ce moment historique pour la Ligue 1 avec les premiers pas de Lionel Messi au stade Auguste Delaune devant 21 000 spectateurs.
Ouais. Juste pour jauger, quand tu dis un ancien, quand tu parles du supporter parisien, quel âge à peu près pour voir par rapport à Manu
58 ans.
58 ans.
Voilà. Ça va. C'est bien, 58 ans, 59 ans, on est conforme, il n'y a pas de problème.
Un supporter parisien, c'est quand même un ancien.
Ouais.
Il a tout connu, lui.
On est sûr de voir Messi sur le terrain, puisqu'il va s'échauffer sûrement, donc on est sûr de le voir.
Au moins
on est sûr de voir l'échauffement de Messi.
Sûr, on n'a pas encore les infos sur la compo, on a des tendances, mais on n'est pas encore certain qu'il démarre cette rencontre. Tu parlais d'un supporter parisien, Nicolas, tu as croisé aussi des supporters rémois et un particulier, hein, c'est ça?
Oui, Florian.
Le but! 3-1! Alors ça a été tout à fait bizarre cette situation. Alors je suis pas sûr, est-ce Salvier qui a marqué ou pas, parce qu'il a l'air tout surpris, le défenseur. Troyen, il a l'air surpris lui-même. Bon, il est content, mais il ne saute pas au ciel. Alors, vous allez me confirmer si c'est Salmier, le défenseur au bois, ou si c'est une tête ou un tout monégasque qui a trompé Nobel.
Aguilar, t'as raison.
Il avait l'air, j'ai rien fait moi les gars, je suis innocent dans l'histoire, je vous jure.
Ah ben si, il est venu quand même empêcher Aguilar de bien faire cette tête pour envoyer le ballon.
C'est
une belle tête offensive ça.
Ouais, Manu, quand même, grosse erreur d'Aguilar, parce qu'il fait vraiment une tête avec un mouvement vers son propre but quand même.
Déjà, c'est vrai que son corps est mal positionné par rapport s'il veut dégager le ballon. Là, il est vraiment carrément en face de son but, et quand il saute, il y a Salmi qui est devant lui, donc il voit pas trop le ballon. Et fait une tête sans voir le ballon. Donc ce ballon, malheureusement, il vient lober Nubert. Et ça relance les Troyens. On disait au début de match qu'il était quand même très favorable aux Troyens, et ça se confirme.
Ouais, Fred, hein, c'est vrai que c'est un gros début de deuxième période des Troyens, parce que c'était déjà. Il y avait déjà eu 2-3 occasions chaudes avant ce but.
Ah oui, il y a eu cette frappe sur le poteau, cette magnifique frappe enroulée, et puis un petit peu de réussite, mais il en fout dans le football.
Bien sûr.
Ils ont beaucoup de réussite, mais bon, c'est pas grave,
ça fait partie du jeu.
C'est mérité sur l'ensemble du retour des vestiaires. On voit bien que ça s'anime beaucoup dans les couloirs, on travaille beaucoup. Il y a Ripper qui fait un énorme travail sur le couloir droit, et puis voilà, les Aubois essayent à partir de maintenant, en tous les cas depuis ce but, ils sont encore plus intenables qu'avant. Ils reviennent au score, et ils sont en train de prouver que ils peuvent faire des belles choses. On les gagne, ils l'ont prouvé en revenant à la hauteur de ces monégasques.
Ça va être un super match, une super deuxième période, et vous allez la vivre sur RMC. Peut-être la réaction monégasque. Fred.
Ah, il a frappé un peu. Non, il a hésité. Il a frappé Caio. Enrique a failli frapper finalement. Il a été un petit peu trop court. Un but partout entre 3 et Monaco après 53 minutes de jeu.
On va aller très vite à Reims pour essayer de conclure avec Nicolas Pelletier, notre envoyé spécial avant le Reims Paris Saint-Germain de ce soir, 20h45. Nicolas, tu commences à nous parler de ce supporter rémois.
Oui, Florian qui est venu avec 3 portraits. Un de Lionel Messi, un de Kylian Mbappé et un de Neymar. Un portrait de Messi qui a gagné la Copa América. Un magnifique portrait dessiné par ses soins. Et il est en train de vouloir le faire signer lorsque les joueurs sont sortis du bus. Bon, bien évidemment, Messi, Kylian Mbappé et Neymar sont sortis du bus sans même regarder le portrait. Mais c'est 3 magnifiques dessins qui sont apposés devant l'hôtel du Paris Saint-Germain, en espérant peut-être une signature lorsque les joueurs repartiront vers le stade aux alentours de 19h.
Supporter de Reims alors.
Oui, supporter du. Oui, exactement.
D'accord. Supporter de Reims.
C'est un dessinateur. Supporter de Reims, dessinateur.
Et on peut être supporter de Reims et aimer les joueurs de Paris Saint-Germain.
Oui, mais.
T'as un problème avec ça, Thibaut?
Ben non, mais tu es supporter de Reims, pourquoi t'as pas fait
un portrait de Rajkovic.
Tu fais un portrait de Rajkovic et tu.
Bon, là, c'est quand même trois joueurs exceptionnels quand même, non?
Je pense que vu la beauté du dessin avec un autographe de Messi dessus, il peut le revendre très cher.
Oui. Bah écoute, tu sous sous-estime un peu le portrait de Nathanaël Mboukou aussi, pourquoi pas. Bon, voilà. Merci Nicolas, on te retrouve tout au long de l'après-midi sur RMC.
À tout à l'heure.
Jusqu'au coup d'envoi 20h45 de ce Reims Paris Saint-Germain, les grands débuts Léo Messi sur RMC évidemment, match en intégralité avec The Voice of the Football, comme on dit en Allemagne. Jeannot Rességuier, 14h12, toujours 1-0, un partout entre Troyes et Monaco, la MotoGP, le Grand Prix de Silverstone, ça va mieux, bien mieux pour Fabio Quartararo, Paul Lafitte.
Ouais Thibaut, puisqu'après 5 tours de couvert ici en Angleterre, El Diablo, le petit prince du MotoGP, est en tête. Il avait bouclé le premier tour en 4e position et au fur et à mesure de la course, eh bien, il a mangé ses adversaires en commençant par Aleix Espargaró, en dominant également Pecco Bagnaia et en faisant l'intérieur, un magnifique intérieur sur l'auteur de la pole position, Paul Espargaró, le frère d'Aleix, le pilote officiel Honda, et il est en train de s'envoler à coup de 10e, meilleur tour en course pour le pilote Yamaha officiel. Il compte désormais 1 seconde et 3 dixièmes d'avance sur Aleix Espargaró. Et ce qui est bien dans la lutte pour le titre mondial, messieurs, c'est que les frères Espargaró, évidemment, ne luttent pas pour le titre mondial. Et ils sont pour l'instant en train de faire bouchon avec Pecco Bagnaia qui occupe le 4e rang et Joan Mir, le champion du monde en titre, en 5e position. On trouve bien plus loin Joan Zarco qui est en perdition sur ce circuit de Silverstone, en 12e position. Donc pour l'instant, tout va bien pour Fabio Quartararo. Et Thibaut, deux informations d'importance. On connaît désormais le calendrier 2022 qui débutera le 6 mars. Ce sera au Qatar pour un total de 20 courses pour la saison donc à venir. Et deuxième information, le futur coéquipier de Fabio Quartararo chez Yamaha officiel sera Franco Morbidelli qui pilotait pour Yamaha le team Petronas. Et comme Madre Vignales a finalement décidé de quitter Yamaha pour s'engager avec Aprilia, et bien finalement au jeu des chaises musicales, c'est donc Franco Morbidelli qui pilotera une Yamaha peut-être d'ici la fin de la saison. Et alors encore une fois au jeu des chaises musicales, Andrea Dovizioso, ancien vice-champion du monde chez Ducati, va lui hériter d'un guidon chez Yamaha Petronas. Voilà pour le jeu des chaises musicales. Ouais, le retour d'Andrea Dovizioso, le futur coéquipier de Quartararo, ce sera Franco Morbidelli. Ils avaient d'ailleurs été tous les deux coéquipiers chez Yamaha Petronas, mais cette année dans le team officiel, et bien le leader du championnat du monde est en train de s'envoler à coup de 10e. Il s'envole, il l'avait dit d'ailleurs, le circuit de Silverstone est un tracé qui me convient à merveille, et il le prouve, 10e par 10e, il compte quasiment 2 secondes d'avance, il reste 14 tours à couvrir, et il mène donc ce circuit devant les frères Espargaró, 4e position pour Rins, devant Joan Mir.
Merci Paul Lafitte. À tout à l'heure, le temps, le score au football. 4e journée de Ligue 1, 3 Monaco. Fred Joly, pardon Fred.
57 minutes de jeu, un partout entre 3 et Monaco. Monaco va le score par Diop en première période. Aguilar contre Sancan a égalisé pour l'équipe 3. Il y a un partout entre 3 et Monaco.
La suite de cette rencontre passionnante, c'est dans un instant sur RMC. Les Monégasques vont devoir pousser pour aller décrocher une première victoire. Mais pareil pour les Troyens. C'est pas sûr que ça en reste là, hein, Manu, sur ce score.
J'espère pas, parce
c'est spectaculaire.
Deux équipes qui essayent de jouer. Hein, 3
et
3
le Monégasque le Monégasque avec Diop qui a profité d'une ouverture millimétrée dans l'axe. Et une nouvelle fois, les Aubois qui sont un petit peu surpris défensivement. Et ce numéro.
Ce numéro.
Ouais, le petit bruit que t'entends là, tu sais, en général, c'est mauvais signe. Là,
ça veut dire que il pleut pas à 3, il fait beau.
Mais
tu vois encore, Thibault, les erreurs de défense. Au lieu de d'avancer vers le porteur du ballon et essayer de jouer le hors-jeu, ils ont fait que reculer ensemble, les Troyens. Ouais. Voilà. Et ce ballon qui est super bien donné entre deux. Et puis, la finition est très belle aussi. Mais à force de reculer, au lieu d'avancer sur le porteur du ballon, ça a laissé des espaces comme en première mi-temps pareil, les deux centraux, ils n'ont pas trop de communication entre ces deux lignes là et c'est compliqué pour eux,
hein. Et la superbe passe, hein, de Fofana pour le doublé de Diop, hein. T'as vu aussi Manu, il faut le souligner, hein, le pif un peu, t'as vu, on allait partir en pub et puis je sentais que ça allait venir et tu vois
comme quoi, tu vois, ce match n'est pas fini
c'est pas terminé, les Troyens, la réaction troyenne dans un instant sur RMC. On va essayer de retrouver Fred Joly au stade de l'Aube. Manu Amoros, c'est là quoi qu'il arrive, 14h17, l'intégrale sport et peut-être le troisième monégasque avec une frappe à l'entrée de la surface de réparation et la parade de Gallon. On va partir très vite, faire la pause, comme ça on revient très vite. C'est un match exceptionnel cet après-midi sur RMC, c'est la Ligue 1, messieurs dames, à tout de suite.
RMC Intégral Foot. RMC Intégral Foot.
Thibaut Giangrande.
Avec Manu Amoros, il est 14h19, excellent après-midi, merci d'écouter RMC. En ce dimanche 29 août, c'est la Ligue 1 qui nous intéresse, comme tous les dimanches en début d'après-midi, c'est la 4e journée. On y va dans un instant, mais d'abord la moto, le Grand Prix de Silverstone. C'est la MotoGP. Fabio Quartararo est-il toujours en tête, Paul Lafitte?
Oui, largement en tête à 11 tours de l'arrivée. Le pilote Yamaha qui compte maintenant 2 secondes et 5 dixièmes d'avance sur Alex Espargaro. La troisième position pour Alex Rins, beaucoup plus loin au classement. Johann Zarco occupe le 12e rang. On le rappelle, ce circuit de Silverstone, le plus long de la saison, quasiment 6 km, hein, avec 10 virages à droite et 8 virages à gauche. Et pour l'instant, le leader du championnat s'en sort à merveille. On rappelle qu'au départ, il avait bouclé le premier tour en 4e position, mais il a mis la main sur ce Grand Prix et compte désormais quasiment 3 secondes d'avance. Ce serait une superbe opération en championnat. On rappelle, Thibaut, qu'il reste encore 7 Grands Prix à disputer avec ce Grand Prix de Silverstone. Et donc pour l'instant, tout roule pour le petit prince du MotoGP en tête devant Aleix Espargaró, la troisième position pour le pilote Suzuki Alex Rins.
Merci beaucoup, Paul. À tout à l'heure, 14h20. Retour au stade de l'Aube. Alors, Manu, t'as pas fait beaucoup de commentaires de match, hein, mais prépare-toi. Prépare-toi, parce qu'à tout moment, on peut finir tous les deux en train de commenter ce match.
En fait, c'est pas un problème.
Ah, Fred Joly est là, mais des fois, il est plus là. Est-ce qu'on a retrouvé Fred au stade de l'Aube?
Je suis là.
Ah,
bon. Il n'y a pas de remplaçant, Thibaut, dans ces cas-là, non?
Bah, écoute, le remplaçant, ce sera toi, Manu. Remplaçant de luxe. Hein. Tu n'as pas été beaucoup au cours de ta carrière, mais tu vois, peut-être dans ta carrière de membre de la Dream Team. Bon, Fred, qu'est-ce qui se passe? Il y a trop d'ambiance, là? Ça fait sauter l'électricité? Qu'est-ce qui se passe?
Ça fait sauter le disjoncteur. Mais c'est bon, je suis reparti. C'est bon, j'ai mis la version dynamo, tout va bien.
Bon, parfait.
Vous avez eu le but quand même, c'est une bonne nouvelle déjà. Enfin, le deuxième but monégasque. Oui. Et puis, il y a eu juste après une belle occasion que vous avez dû voir également, avec peut-être l'accélération de Baldé sur le côté droit qui va pouvoir remettre dans l'axe. Et oui, Gallon qui a dû s'employer sur une belle frappe, une belle envolée du portier troyen. Et là, on sent vraiment que l'équipe monégasque, on est en train de retrouver cette équipe monégasque qui nous a fait un petit peu rêver en tour préliminaire de Ligue des Champions où ça joue, ça part dans tous les sens. Les Aubois ne sont pas débordés, mais ont quand même bien du mal à contrôler toutes ces tentatives monégasques qui mènent 2-1 et beau doublé de Diop dans cette rencontre en tous les cas.
Oui, c'est
de vouloir attaquer, essayer d'aller gagner le match, ils se font prendre en contre. Déjà sur le deuxième but dans l'axe, ça a été catastrophique, mais sur l'action qui Yedder part tout seul, c'est une passe en retrait, les deux centraux se regardent, le gardien va sortir, non, il sort pas, et Yedder nous a montré mieux que ça, parce qu'il a l'habitude de piquer ce ballon au-dessus du gardien quand il arrive, et là il a voulu faire un petit crochet extérieur, le gardien n'a pas plongé là-dessus, il a bien pu récupérer la balle. Hein.
Ben Yedder qui rate pas mal en ce moment quand même, parce qu'il a mis son doublé face au Shakhtar mercredi, mais il a raté pas mal de face-à-face également face au gardien ukrainien.
Il marque un début de la saison,
je constate, c'est qu'il marque, il a beaucoup d'occasions et il ne les met pas toutes. Mais en tout cas, ce qui est agréable, je ne sais pas ce que tu en penses, Manu, c'est que Monaco mène 2-1 à 3, mais 3 ça joue, ça permet d'avoir un super match, et surtout en jouant de cette manière, les Troyens ont des occasions et ils auront sûrement des opportunités de revenir, Manu.
Oui, bien sûr. Là sur ce qu'on voit de Monaco, c'est une équipe qui est attentiste. Elle reste dans sa moitié de terrain. On sait que Diop et Martins vont très 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 vite. C'est pas le cas de Yedder, mais Yedder, il est là comme serviteur, c'est-à-dire il peut récupérer le ballon, il peut donner des ballons en profondeur pour ces deux joueurs qui vont très vite. Donc ils sont là, ils sont bien entre les lignes, bien regroupés. Et ils essayent de contrer les Troyens qui, eux, essayent maintenant de revenir au score. Très compliqué, très difficile. Mais on sent, si tu veux, les Monégasques un peu plus matures par rapport à ces Troyens.
Le temps, le score au stade de l'Aube, Fred Joly.
65 minutes de jeu et Monaco mène 2-1 ici au stade de l'Aube, alors qu'il y a des changements en cours avec Maripane qui vient de sortir, a été remplacé par Disasi, va être remplacé par Disasi, et puis Zidor Wilson est lui entré à la place de Jean Lucas. Voilà pour les changements monégasques pour l'instant.
Hâte de voir Isidore, Manu, petit attaquant français là, de 21 ans, qui a fait des bonnes prestations lors de ses derniers matchs avec Monaco. Retour au foot dans un instant. Place, comme tous les jours à cette heure-ci, à peu près, au défi hippique sur RMC.
RMC. Le défi hippique.
Et c'est avec Frédéric Kita. Salut Fred.
Salut Thibaut. Salut Manu. Salut à tous. Effectivement, c'est le dernier quintet plus déjà du meeting de Deauville. L'été touche à sa fin. La rentrée arrive. Et aujourd'hui, ils seront 16 au départ à s'affronter sur la piste en sable fibré, la courte distance de 1500 mètres. Et pour ce défi hippique, on accueille tout de suite au 32-16 un parieur. Salut Alain. Comment vas-tu?
Salut, ça va très bien, merci.
T'as choisi qui comme favori dans ce quintet ?
Alors, j'ai choisi le numéro 8, Stenzo.
Pour quelle raison tu as pris Stenzo ?
Ben, écoute, ça fait le troisième essai dans un événement, valeur 37,5. Il retrouve la PSL sur laquelle ça fonctionne pas mal. J'y crois dur.
C'est noté. Merci Alain. Ma dernière minute dans ce quintet, c'est le numéro 12, Coronado Beach, un concurrent qui se trouve de mieux en mieux placé au poids et qui a déjà gagné sur ce parcours. Donc je rappelle la règle, Alain. Si le numéro 8, Stanzo, termine devant le numéro 12, Coronado Beach, tu seras de nouveau avec nous demain. Je te souhaite bonne chance, un très bon quintet.
PMU. Que les meilleurs gagnent. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Merci Fred. Je voudrais profiter de Manu. On le sait, il a la double casquette, membre de la Dream Team Foot, mais Dream Team Hippies. Mais également, tu joues sur quel canasson là ?
Ouais, moi je vois bien le 14 qui peut être dans le tiercé, c'est-à-dire qui peut finir 3e.
C'est Griegos le 14. Il est à 8 contre 1. Donc si vous jouez 2 euros, vous en gagnez 16.
Pas mal, c'est une belle cote. C'est une belle
cote. Bravo Manu.
Merci Manu, merci Fred.
Merci, hein.
14h25.
On verra après la course pour remercier.
On retournera à la MotoGP dans quelques instants. La Formule 1, je vous rappelle, dans 35 minutes, le départ du Grand Prix de F1 de Spa-Francorchamps avec Verstappen en pole devant Russell et Lewis Hamilton. Mais retour au foot, le temps, le score au stade de l'Aube, Fred Joly.
67 minutes de jeu et l'AS Monaco mène 2-1 grâce à ce doublé de Diop. Les Troyens avaient égalisé par Aguilar contre Sancan, mais pour l'instant Monaco mène 2-1.
C'est la quatrième journée de Ligue 1, 15h le départ du Grand Prix, mais le départ également du Multi-Ligue 1 avec 4 matchs de cette quatrième journée de Ligue 1. Vous le savez, tous les dimanches c'est votre rendez-vous de l'après-midi. 4 matchs à suivre sur RMC: Angers, Rennes, Clermont, Metz, Lens, Lorient et Strasbourg contre Brest. Et comme toutes les semaines à 14h30, on va faire un tour rapide de ces stades. Damien Tardieu est sur RMC pour Clermont-Metz. Salut Damien.
Salut Thibaut, salut tout le monde.
On va retrouver l'autre promu de cette année. Explique-nous pourquoi il faut suivre ce match avec toi cet après-midi.
Bah, pour savoir qui sera leader de Ligue 1 à l'issue de la journée, tout simplement, mon cher Thibaut, puisque Clermont, en cas de victoire, peut provisoirement prendre la tête du classement en attendant le match du Paris Saint-Germain ce soir. Il y aura beaucoup de monde. À nouveau, un stade quasiment plein ici à Clermont pour le deuxième match de l'histoire du Clermont Foot en Ligue 1. Clermont est invaincu en Ligue 1, oui. Bon, il y a eu que 3 matchs, c'est vrai. Mais pour l'instant, on en est là pour les Clermontois.
Et oui, Monaco, ils peuvent pas en dire autant. Hein.
Exactement. Le seul équipe et même de l'histoire à vaincu en Ligue 1.
Et il y a encore un promu qui joue très bien au ballon.
Exactement. Les Clermontois ont bluffé tout leur monde à Lyon en allant chercher un match nul 3 partout alors qu'ils étaient menés 3-1 à 10 minutes de la fin la semaine dernière. Clermont 3e avec 7 points qui peut donc être leader. Et puis en face, les Messins doivent vite réagir après 2 sorties très moyennes face à Nantes et face à Reims. Ils sont 15e avec 2 points. Donc tout l'intérêt également pour ces deux équipes de prendre des points.
Et Florian qui nous dit sur le hashtag RMC Live, 3 ça va être dur pour le maintien, au contraire de Clermont qui aura 10 points à 17h contre 1 pour 3. Un optimiste, ton pronostic Manu, Clermont-Metz ?
Clermont. Ouais, ils ont démontré des grosses capacités techniques et collectives, c'est bon.
Réponse à partir de 15h, merci Damien, à tout à l'heure. 15h, l'heure du début du match également de Lens-Lorient avec Valentin Jamin en commentaire. Salut Valentin.
Salut messieurs, salut Valentin. Tout le monde.
Pourquoi on doit suivre Lens-Lorient avec toi tout à l'heure?
Tout simplement parce que déjà un match du RC Lens à domicile en Ligue 1 à guichet fermé, plus de 35 000 personnes, c'est un événement intéressant à suivre.
On a la chance.
Voilà, rien que ça. Mettez-vous sur RMC et écoutez cette ambiance. Aussi parce qu'on pourrait avoir un match spectaculaire. Lens a marqué 5 buts en 3 matchs, continue de proposer un jeu alléchant alors que la défense lorientaise est décimée. 2 suspendus, Ergo et Mendes.
Vas-y Fred,
Oh Baldé, ce qu'il a fait c'était magnifique. Il a récupéré un ballon qui arrivait de la gauche.
Magnifique.
Oh, il l'a vu que Noubel était légèrement avancé. Il a tenté le petit là, mais il est venu rebondir sur la barre transversale. Oh, que le geste était beau. Il a manqué quelques centimètres au Troyen pour revenir au score par cette belle occasion de Baldé.
Et derrière, le 6 de Tousgar, c'était pas mal non plus. 3 toujours mené, 2-1 par Monaco. C'est la quatrième journée de Ligue 1. On revient dans un instant. On conclut. Bollard, Lens, Lorient, Valentin Jamin.
Oui, je vous parlais de la défense lorientaise. Décimé, donc Ergo Mendes suspendu, Morel, Le Queux et Muyokolo blessé, donc 5 absents. On va jouer avec un tout jeune joueur, Petro, enfin tout jeune, 24 ans, mais première en chez les pros, donc il pourrait y avoir quelques espaces. Et enfin, pourquoi suivre ce match? Parce que Lorient doit réagir après la défaite subie face à Montpellier le week-end dernier, alors que Lens doit continuer de prouver devant son public qu'il est en forme après la victoire 2-0 face à Monaco la semaine dernière.
Merci Valentin, rendez-vous à 15h pour les Corons, fois 15h45, hein, on le sait, à la mi-temps. À tout à l'heure, pronostic Manu, Lens-Lorient.
Lens, Lens qui est rationné sur une belle victoire à Monaco. Et puis ils ont, par rapport à l'année dernière, ils ont plus de maturité.
Dans quelques instants, nous irons à Angers pour Angers, Rennes et à Strasbourg pour Strasbourg, Brest et les deux autres matchs de 15h. Retour à la Ligue 1 et les Troyens qui poussent la quatrième journée. Ouais, mais... Ce match en direct, 3 Monaco, Fred Joly au stade de l'Aube.
2-1 pour Monaco ici face à 3, mais des Aubois qui se sont créés des occasions avec entre autres cette superbe tentative de Baldé. Les Troyens qui croient en leur chance malgré tout, ça va très très vite du côté de Monaco avec Caio Henrique qui va déborder sur le côté. Oh, la belle intervention, c'est nickel de la part de Tardieu qui a chippé le ballon au Monégasque pour tenter de remettre son équipe dans le sens du but. La langue, voilà, on balance un petit peu du côté de 3 maintenant. On n'est plus dans le schéma Batles ou en construit
Manus,
et maintenant
le
c'est un petit peu. Allez, on envoie devant les gars, bonne chance, courez vite et on sait jamais sur un malentendu. Mais bon, c'était un peu de bonne guerre à 20 minutes, 25 minutes, 24 minutes de la fin de cette rencontre où Monaco mène 2-1.
Retour au stade de l'Aube dans un instant avec Manu Amoros. L'intégral foot continue sur RMC. On retournera à Silverstone pour la fin du Grand Prix MotoGP. Quartararo toujours en tête. Et puis donc la fin de notre tour des stades, le multi Ligue 1 sur RMC à 15h. A tout de suite.
RMC Intégral Foot. RMC Intégral Foot.
Thibaut Giangrande.
Avec Manu Amoros, notre membre de la Dream Team, notre champion d'Europe 84. Il est 14h32, vous êtes sur RMC. Et comme tous les dimanches après-midi avec Manu, c'est la Ligue 1, la quatrième journée. Fin de match à suspense entre Troyes et Monaco, Fred Joly.
La 74e au stade de l'Aube et Monaco mène 2-1. Le petit passement de jambe de Baldé, il a essayé de faire une petite feinte de corps pour laisser passer le ballon entre ses jambes et reprendre ensuite. Mais du côté de Monaco, on était bien en place, bien concentré. On ne s'est pas fait surprendre par cette feinte de l'attaquant au bois. Les Monégasques avec Aguilar sur le côté droit qui va pouvoir glisser sur la droite vers Martins qui a été qui se tient un petit peu le derrière de la cuisse. Aurait-il pris un petit coup, est-ce que c'est un petit claquage, je ne sais pas. En tous les cas, dans ça a l'air d'aller finalement, ça peut être juste un petit coup et les Aubois vont pouvoir récupérer cette balle une nouvelle fois. Je pense que du côté de 3, on va chercher une solution devant avec l'appel, voilà qui est fait, c'est parfait de la part de Baldé et qui va centrer devant le but. Il y a Tousgard devant ce but et au second poteau il y a Ripart qui sera un petit peu court.
Ça, troisième poteau, il y avait personne.
Ouais, mais tu vois, ils se projettent pas vers l'avant quand même les Troyens, hein, parce que là on a vu le joueur qui centrait et puis que deux dans les 16m50. Donc pour une équipe qui perd 2-1, il faut qu'il y ait un peu plus de solutions vers l'avant.
Alors dans un instant, on va finir notre tour des stades des matchs de 15h. On ira à Angers pour Angers-Rennes et à Strasbourg pour Strasbourg-Brest. On va terminer ce match en intégralité entre Troyes et Monaco, mais on va faire un point moto. On approche de la fin du Grand Prix de Silverstone. Ça se passe toujours bien pour Fabio Quartararo, Paul Lafitte.
Oui, Thibaut, quatre tours à couvrir en Angleterre à Silverstone et Fabio Quartararo compte quasiment 4 secondes d'avance sur Alex Rins. La troisième position pour Aleix Espargaró, ce qui est de très intéressant pour le pilote yamaha, c'est que ses principaux adversaires pour la course au titre mondial sont positionnés en 6e place pour Joan Mir et en 10e place pour Pecco Bagnaia. Si les positions restaient là, Fabio Quartararo compterait ce soir 62 points d'avance sur son plus proche rival, donc le pilote Suzuki officiel Joan Mir, avec 6 courses à disputer. Autant dire que le titre mondial tendrait les bras au pilote Yamaha. Il reste encore 4 tours à couvrir pour l'instant, donc scénario impeccable seulement sur ce circuit de Silverstone. Fabio Quartararo en tête devant Alex Rins et Aleix Espargaró.
Merci Paul, on te retrouve dans quelques instants pour les derniers tours de roue de ce Grand Prix de Silverstone.
Thibaut, s'il tombe pas Quartararo, il a gagné avec 4 secondes d'avance là,
normalement.
Le problème c'est mécanique, quoi. Donc tu peux avoir un problème mécanique, une chute et la victoire qui file.
Ouais, mais c'est vrai que ça sent bon pour Fabio Quartararo. On va revenir à 3 dans quelques instants. Allez, une occasion, on y va, Fred Joly.
Un Baldé qui centre de l'autre côté. Monaco mène 2-1. Oh, la frappe, elle est complètement manquée de Biancon. Elle s'est envolée largement au-dessus du but de Nubel. Alors qu'il y a deux changements du côté de 3 et les Troyens sont menés 2-1. Il reste 13 minutes à jouer dans cette rencontre.
Tu nous annonceras les changements dans un instant. On va aller à la Méno retrouver Sébastien Ruffet à 15h. Coup d'envoi de Strasbourg-Brest. Salut Sébastien.
Salut tout le monde.
Pourquoi suivre ce match avec toi sur RMC?
Mais pourquoi? Mais parce que Strasbourg-Brest, c'est un derby, évidemment.
Bon, j'ai beaucoup
Comment ça
j'ai cherché pas mal d'arguments, mais j'en ai pas beaucoup trouvé, donc je me raccroche à ce que je peux, hein, je me raccroche aux branches. Non, parce que ces deux équipes, évidemment, n'ont pas gagné depuis le début de la saison, parce qu'elles marquent peu, mais qu'elles sont friables. Parce que forcément, il y a quelqu'un qui va prendre un point à un moment donné dans cette partie. Parce que Kevin Gamero, parce que Steve Mounier, parce que je sais pas vraiment, en fait, j'ai cherché toute l'après-midi depuis ce matin à trouver des arguments, mais j'en ai pas vraiment.
Très bien.
Mais enfin, la première victoire du Racing, peut-être qui va se dessiner, parce que Julien Stéphan essaye de proposer, de produire du jeu. On a vu cette équipe strasbourgeoise assez séduisante. Ça va de mieux en mieux au fil des semaines. On espère qu'elle va enfin pouvoir, évidemment, côté strasbourgeois, parce que côté Brestois, on espère pas. Mais enfin, ici à la Méno, on espère, devant ce public qui sera encore nombreux cet après-midi, que enfin ça va pouvoir concrétiser un petit peu après le match nul face à Troyes la semaine dernière. Enfin, une victoire. Mais en tout cas, il y aura du spectacle, hein, c'est sûr et certain. Il y aura de l'ambiance. Il y aura des trucs de fou. Et puis moi, j'y suis. Je vais vous mettre l'ambiance, je vais vous mettre le feu. Vous allez voir. Ah, ça va être génial.
Bon, voilà. Bon, tu m'as mis le doute. On le fait quand même le match ou tu rentres à la maison avant du coup c'est...
Non, mais moi, je vais vous vendre
okay,
du rêve.
Hein. Okay,
bon. Une touche, ça va être Lionel Messi. Vous parlez de Messi depuis ce matin. Ouais, je peux vous dire que les touches ici, elles vont être phénoménales. Hein.
Le stade est plein.
Il sera
à Strasbourg.
Pas tout à fait plein. A priori, le premier guichet fermé devrait être pour la réception de Metz dans 15 jours.
D'accord.
Mais ce sera quand même
le vrai derby.
Pour un autre derby.
Oui,
alors.
Oui, voilà.
Ok, Seb, merci. On te retrouve à 15h pour le coup d'envoi.
Je fais de mon mieux. Hein.
Non, mais t'as bien fini. T'as commencé doucement et t'as bien fini.
Il nous a tellement bien vendu qu'on va faire un match nul, non?
Un vieux 0-0.
Un vieux 0-0, tu te fais bien chier, quoi.
C'est ton chrono, Manu.
Ouais.
Ah, bah d'accord. Merci la confiance, Manu.
Rendez-vous à 15h pour le coup d'envoi de cette rencontre. Angers-Rennes, c'est le dernier match que vous verrez à partir de 15h. On termine notre tour des stades avec Xavier Grimaud. Salut Xavier.
Salut Thibaut, salut Manu.
Salut Xavier.
Bonjour à tous.
Est-ce que tu as d'autres arguments que ceux de Sébastien Ruffet pour qu'on t'écoute à 15h?
Eh ben évidemment qu'il faut écouter et regarder ce match entre Angers et Rennes, tout simplement parce qu'on a envie de voir l'orgie de jeu, la ville, le dynamisme de cette équipe du SCO qui avait totalement surclassé Lyon. Souvenez-vous de ce magnifique match que vous aviez suivi à 13h, je crois même d'ailleurs.
Oui, c'est ça, ouais.
Le week-end,
ouais.
C'était un super match des Angevins. Il y a de la vie depuis que Gérald Baticle est là. Il y a Fulgini qui est en pleine bourre. Il y a Bouffal également qui a retrouvé son jeu. Bref, il y a Angers qui va jouer avec de très bonnes intentions. Il y a une équipe de Rennes qui est invaincue depuis le début de la saison, qui a été sérieux en Europe, qui a des qualités également. Ce sera peut-être la dernière d'Eduardo Camavinga. Bref, là, je pense, Manu, qu'il y aura des buts. Je pense qu'il y aura des buts cet après-midi entre Angers et Rennes.
Je pense qu'on peut voir du bon spectacle. Dis-moi, Xavier, est-ce que Shaw joue?
Bien sûr qu'il est là, je l'ai même pas
parce qu'il avait fait un match contre Lyon extraordinaire.
Ouais, absolument, il est bien
sûr. Il avait été très bon et il a 17 ans, hein, ce gamin.
Ouais, il y a 17 ans pour Mohamed Ali Chou à la pointe de l'attaque angevine, et il y a 18 ans pour Mathis Sablin, c'est la surprise à la pointe de l'attaque rennaise, lui qui a marqué à Rosenborg cette semaine.
Merci Xavier, coup d'envoi 15h. Angers-Rennes, le pronostic de Manu Amoros.
À Angers, s'il reste sur la dynamique qu'ils nous ont montré.
Rennes, ils sont sur une bonne dynamique aussi, Manu.
Ouais, mais moins. Moi j'ai envie de jouer à Angers. Voilà.
Tu t'engages, Manu.
Oui, je m'engage, Angers.
Merci Manu, le temps, le score sur notre match en direct. Avec le match du dimanche 13h, 3 Monaco, Fred Joly.
81 minutes de jeu et l'AS Monaco mène au Stade de l'Aube face à 3 sur le score de 2-1.
Fin de match à suspense, fin de match spectaculaire dans un instant, mais d'abord fin de Grand Prix en moto direction Silverstone, la MotoGP. Les deux derniers tours en intégralité, Paul Lafitte, Fabio Quartararo va-t-il remporter un cinquième succès cette saison?
Allez, c'est bien parti pour le pilote Yamaha, le petit prodige du MotoGP qui compte toujours 3 secondes et 5 dixièmes d'avance sur le pilote Suzuki Alex Rins. La troisième position pour Alex Espargaro, quatrième place pour Jack Miller. Paul Espargaro, l'auteur de la pole position, est cinquième. Juan Zarco occupe le dixième rang, mais évidemment Thibaut, Manu, tous les regards sont tournés vers ce petit prodige, un petit peu à la manière de Marc Marquez. Il domine ses adversaires de la tête et des épaules. On le rappelle, troisième sur la grille de départ, auteur d'un premier tour relativement prudent. En quatrième position, eh bien, il a de suite accéléré le tempo, déposant ses adversaires un à un, en signant évidemment les records du tour, un véritable métronome sur ce circuit de Silverstone. Il l'avait dit à l'arrivée du Grand Prix de Styrie il y a 15 jours, j'adore Silverstone. Mayama est faite pour ce circuit. Il va donc peut-être s'imposer. Dernier tour donc pour Fabio Quartararo qui après le 4 avril à Doha au Qatar, après le Portugal le 18 avril, après l'Italie le 30 mai et après les Pays-Bas le 27 juin, il va peut-être signer un cinquième succès cette saison pour s'envoler peut-être définitivement au classement général de ce championnat du monde de MotoGP. Son titre, il le veut, Fabio Quartararo, auteur de plusieurs podiums, auteur de 10 pole positions. Il est en train de marquer cette saison de MotoGP sur sa Yamaha officielle. On le rappelait tout à l'heure, il sera l'année prochaine épaulé par Franco Morbidelli, mais Fabio Quartararo veut s'imposer comme un grand et il le fait, il le prouve cet après-midi sur ce circuit de Silverstone. Encore quelques hectomètres, la dernière boucle donc pour Fabio Quartararo qui compte plus de 3 secondes d'avance sur Alex Rins et sur Aleix Espargaró. Ce qui est encore une fois très important dans la lutte pour le classement final, c'est que ses principaux adversaires sont complètement largués aujourd'hui. Joan Mir 9e, Pecco Bagnaia 14e. Il pourrait compter ce soir plus de 70 points d'avance au classement général de ce championnat du monde. Une démonstration de force seul au monde, un petit peu comme Tom Hanks dans le film de Robert Zemeckis. Il s'éclate cet après-midi seul au monde sur cette piste de Silverstone.
Un peu comme les trois, Eric Iranzi aussi dans Full Tour, c'est différent,
mais vraiment on le sentait là, on le disait d'ailleurs dans la présentation, il est en train de gérer son championnat du monde. Il ne veut pas penser au titre, mais il l'avait calculé il y a 15 jours à Styrie, il l'avait calculé également sur le premier Grand Prix d'Autriche sur le tracé de Spielberg lorsqu'il avait sous la pluie terminé en 3e position. Il est capable d'assurer des podiums et lorsqu'il faut gagner, il gagne. La Marseillaise, c'est terminé, la victoire de Fabio Quartararo, la 5e de la saison, la 8e de sa carrière. Quelle démonstration de force encore une fois du pilote niçois, 3e on le rappelle sur la grille de départ, qui a mangé ses adversaires et qui, à la manière d'un Marc Marquez ou d'un Valentino Rossi, a pris les commandes, les rênes de cette course pour ne plus la lâcher et s'imposer avec quasiment 4 secondes d'avance. Thibaut, c'est un énorme pas, un grand pas fait par le prodige de cette équipe Yamaha pour le titre mondial. Victoire donc ici à Silverstone. Vraiment, c'est une explosion de joie pour le pilote niçois.
Et c'est un événement, cette nouvelle victoire de Fabio Quartararo qui se rapproche du titre. Merci beaucoup Paul Lafitte. Prochain Grand Prix MotoGP dans 15 jours, le Grand Prix d'Aragon. À l'occasion pour Quartararo de se rapprocher encore un peu plus de ce titre. Manu, je t'ai entendu. Tu chantais la Marseillaise, toi, à l'époque de tes sélections en équipe de France ou...
De temps en temps.
Merci.
Alors j'ai commencé à l'apprendre dans ma première sélection et après à la fin je la connaissais à la 82e, tu vois.
Mais c'est vrai que des fois on a envie que les footballeurs les chantent la Marseillaise, mais c'est vrai que
ils chantent maintenant, mais pour le coup
là je t'ai entendu la chanter, je me dis des fois c'est pas mal si tout le monde ne la chante pas.
Je crois que les sénateurs ils chantent la Marseillaise, non?
On va quand même rappeler le podium de ce Grand Prix, la victoire de Fabio Quartararo, 2e position pour Alex Rins et 3e position pour Aleix Espargaró. C'est le premier podium pour l'écurie Aprilia en moto GP et la 10e place pour Johan Zarco au classement. Fabio Quartararo compte 65 points d'avance sur Joan Mir, la 3e position pour Johan Zarco et la 4e pour Pecco Bagnaia. On le répète, c'est un grand pas, un immense pas fait par le pilote niçois en vue du titre mondial en fin de saison.
Merci beaucoup Paul, à très vite sur RMC. Bye bye, 14h43, les sports mécaniques ne sont pas finis puisqu'à 15h, en même temps que le Multiligue 1, vous suivrez le Grand Prix de Spa-Francorchamps sur RMC avec Max Verstappen en pole position devant George Russell et Lewis Hamilton. 14h43, Manu Amoros, notre membre de la Dream Team, est toujours là dans l'intégral foot. On va suivre les 8 dernières minutes en intégralité de ce 3 Monaco parce que Fred Joly au Stade de l'Aube, suspense jusqu'au bout. Les Monégasques tiennent pour l'instant leur première victoire, mais c'est pas gagné Fred.
Exactement, ils sont malmenés ces Monégasques en fin de rencontre avec des Aubois qui croient en leur chance, qui essayent. Alors c'est de plus en plus brouillon, c'est de plus en plus du nouveau football comme on dit, mais bon ils essayent. Voilà, c'est vrai qu'on est loin de ce qu'on parlait avec Manu au début de rencontre, de la construction à la Batles. Là on est plutôt en envoi et au petit bonheur la chance en tous les cas, et les Monégasques mènent 2-1 alors qu'il reste 4 minutes dans le temps réglementaire.
Manu, ton analyse là sur cette fin de match et sur ce que nous dit Fred, pourquoi ça construit un peu moins? Est-ce que c'est une volonté tactique ou est-ce qu'on est fatigué?
Je pense qu'ils sont fatigués et puis ils ont perdu un petit peu le fil du match par rapport aux Monégasques qui sont bien en place. Ils jouent que les contres avec des joueurs qui vont très vite devant. Donc eux, ils essayent maintenant de balancer les ballons, sauter le milieu de terrain alors qu'ils faisaient pas ça en début de deuxième mi-temps et voire en première mi-temps. Donc voilà, ils ont perdu le fil du match et continue comme ça, ça risque de tourner mal parce qu'ils vont perdre ce match-là. Et là, il faudrait que physiquement, s'ils arrivent encore un petit peu à faire le pressing très haut et empêcher les Monégasques de sortir le ballon et d'être plus près du but de Monégasque pour marquer ce deuxième but.
Fred, Stade de l'Aube.
Avec Diop, le double buteur monégasque qui vient de sortir, acclamé évidemment par les supporters monégasques qui sont bien présents dans cette tribune du Stade de l'Aube. Et un ballon qui est dans les pieds des Troyens. Il y a l'appel de Caboret sur le côté droit. Caboret qui va pouvoir récupérer cette balle. Il est face à deux défenseurs monégasques. Il va tenter de déborder pour aller centrer. Le centre de Caboret, oh, c'est bien vu. Oh, la reprise manquée. Peut-être Ripart. Oh, ça passe juste au-dessus. Cette frappe de Ripart, elle était super. Elle a été touchée du bout des gants par Nubel qui a mis cette ballon en corner, alors que le jeune Caboret franchement a fait un bon boulot. Mais c'est vrai que cette frappe de Ripart, elle partait bien.
Ouais, un bel arrêt de Nubel, et ça vient contrer ce que nous dit Tav sur le hashtag RMC Live qui dit il vaut pas son prix Nubel. Mais voilà. Qui a fait un bel arrêt. Ouais. Le corner, ouais. Troyen Fred.
Allez, le corner à suivre, le ballon qui s'élève, une tête, non finalement, oh là là, c'était une tête monégasque, ça a été complètement de l'autre côté, ce sera une touche à suivre pour les... Pour les Troyens, à quelques centimètres du poteau. Voilà, il préfère la laisser cette touche à Caboret qui fait son retour, puisqu'il était suspendu lors du dernier match. Il avait été expulsé à Clermont, suspendu à Strasbourg. Jeune Caboret, jeune garçon plein de talent, mais un petit peu fougueux. Il a pris deux cartons jaunes un peu stupides lors du match face à Clermont. Il retrouve sa place et il a pu faire cette touche qui revient à ce ballon dans les pieds de Tardieu. Tardieu vers Ripart. Ripart, il cherche à se retourner. Il va trouver sur le côté Dominguez qui est entré il y a quelques minutes. On revient derrière. Voilà, tout le monde est en défense maintenant du côté de.
Ouais, c'est sûr.
L'AS Monaco, ouais, on sent quand même que ce match de préliminaire de Ligue des Champions a dû peser dans les jambes. Mais franchement, ouais. Manu, cette équipe de Monaco, elle nous a montré des belles choses. Même si en face, on a vu une belle équipe troyenne, ouais, qui prouve qu'elle a de la qualité. En face, on voit une équipe de Monaco qui commence à prendre forme.
Oui, c'est vrai que ils ont quand même des traces de fatigue par rapport à ce match de la semaine en Ukraine, mais on sent plus les Troyens vraiment impliqués. On a vu en première mi-temps où il y avait énormément de mouvements, là ben ils sont tous statiques, ils attendent tous le ballon, ils attendent tous un exploit d'un joueur qui puisse faire soit une bonne passe, soit un tir comme tout à l'heure Ripart qui a fait superbe tir. Mais je pense qu'ils sont, ils commencent à être résignés par rapport à ce match.
Ouais, ils ont du mal, ils ont du mal à enchaîner. Alors, on essaie de passer par les côtés. On l'a vu par Lumeka qui vient de décrocher un centre qui a été remis tant bien que mal, mais sans aucun danger par Ripart sur le gardien monégasque. Voilà, c'est un petit peu des tentatives de désespoir. Manu, on sent vraiment que cette équipe de 3, ben, elle est en train de se rendre compte qu'elle va malheureusement sans doute enchaîner une défaite.
Mais ce qui est dommage, parce que Manu, les monégasques ont l'air fatigués quand même.
Après, tu sais, quand tu perds devant, que tu as cette volonté de vouloir aller vers l'avant en permanence, de vouloir construire le jeu, de faire du beau football, mais que tu vois que tu n'y arrives pas parce que les Monégas sont bien quand même bien placés, ça joue quand même sur le moral. Et du moment que ça joue sur le moral, on a toujours tendance un petit peu à rester en dedans et ne pas aller chercher les Monégasques vachement plus haut, aller les presser, essayer de jouer plus rapidement que ça, avoir davantage de mouvements. Et tu vois, là, il y a un joueur Troyen qui a une crampe. Peut-être que ça aurait été les Monégasques qui ont joué davantage et qui, pour eux, tout va bien, quoi.
Les dernières secondes, le temps additionnel de ce 3 Monaco, quatrième journée de Ligue 1, Fred Joly.
Il y aura 4 minutes de temps additionnel. Nous sommes entrés dans ce temps additionnel. Le centre peut-être qui va venir. C'est un ballon contré mais qui ne sortira pas. La tentative, elle était de Caboret. Elle a été contrée par un pied monégasque. Le ballon n'est pas sorti du champ de jeu. Ça va permettre à Ben Yedder, entre autres, de tenter de repartir en contre-attaque. Elle est très, très intelligemment à Ben Yedder. Il a protégé son ballon pour un petit peu, Manu, un petit peu provoquer la faute pour gagner un petit peu de temps, je pense.
Ouais, il a provoqué la faute. Tu as raison. Il s'est mis en opposition entre le ballon et le joueur adverse. Et avec son épaule, ben, il a poussé. Le joueur adverse s'est énervé. Et voilà, l'arbitre a sifflé faute pour Ben Yedder. Mais il joue bien le coup. Ben Yedder, c'est un super joueur quand même. On a, comme disait Thibaut, il marque pas beaucoup de buts, il loupe beaucoup d'occasions. Mais c'est un joueur très utile pour une équipe.
Vas-y Fred, le ballon seconde.
Dans les pieds des Monégasques, c'est récupéré. Peut-être l'accélération, voilà, qui est fait. Ce ballon qui est décalé sur le côté droit. C'est devant le but. Oh, la belle parade impeccable devant Isidore. La parade de Gallon. La défense troyenne qui était une nouvelle fois, avait une nouvelle fois pris l'eau, était complètement arrêtée. C'est vrai qu'on, franchement là, c'est encore
ils sont plus.
Une erreur de
ils
défense.
Ils y sont plus là. Je sais pas, ils n'arrivent pas à s'organiser. Ils étaient 5 derrière, ils arrivent à ne pas prendre le ballon. Heureusement qu'il est hors jeu. Mais ils n'y arrivent plus à récupérer ce ballon, à jouer comme ils jouaient en début de match.
Ouais, avec cette balle qui va revenir à son poteau de réparation. Le contrôle, il est complètement manqué, ce contrôle de Tardieu. Et tranquillement, Noubel peut rassurer tout le monde en allant capter cette balle entre ses deux défenseurs. Le genre d'attitude idéale pour assurer sa défense qu'a parfaitement fait le portier Alexander Noubel, qui va pouvoir dégager. Il reste 2 minutes à jouer sur les 4 minutes de temps additionnel. Le long dégagement, c'est très très loin devant. Alors on ne calcule plus non plus au niveau de la construction du côté de Monaco. On dégage loin devant et c'est un ballon
qui va revenir.
Ouais, non, là, franchement, ils sont en train de se dire que c'est une bonne affaire et surtout de signer cette victoire qu'ils attendaient tant de, dans ce championnat. On commence à se poser pas mal de questions. Et c'est bien, Monaco est en train de montrer que tout d'abord, ils ont à peu près bien digéré leur élimination en Ligue, en tour préliminaire de Ligue des Champions, et que surtout, ils sont peut-être en train doucement de retrouver le niveau qui est leur et le niveau qu'on leur connaît.
Les dernières secondes, vous êtes sur RMC, c'est l'intégral foot 3, encore une petite chance de revenir, même si Manu Amoros n'y croit pas, il les a enterrés depuis bien longtemps. La dernière.
Enterré, non, c'est difficile, quand, c'est dur quand tu dis enterré, mais on sent plus cet élan. Non, mais on sent plus cet élan des Troyens. Il n'y a plus de mouvement, je disais, il n'y a plus de solution. Ils se retrouvent à 5 derrière alors qu'ils devraient être peut-être à deux derrière et se balancer vers l'attaque pour essayer d'avoir des actions dangereuses. Et malheureusement, depuis 10 minutes, il ne se crée plus rien, quoi.
Avec cette balle qui sera mise en touche par Ben Yedder du derrière du crâne, les Troyens pour alors même au niveau des touches, c'est assez compliqué de trouver un coéquipier. Voilà, c'est par dessus. On cherche un petit peu l'exploit personnel avec cette récupération sur le côté droit, un ballon qui va peut-être revenir vers Caboret qui trouve juste à côté Kouamé dans la profondeur. Alors, ça c'est pareil, c'est un signe également, Manu, c'est que ils sont quasiment systématiquement dos au but. Les Troyens,
oui, c'est ça.
Ils ont du mal à se mettre dans le sens du but.
Ouais, c'est ça. Ils n'arrivent pas à prendre de vitesse ces monégasques ou être lancés pour un dribble.
Voilà, c'est terminé cette victoire de Monaco qui enfin des coins ce sont son compteur victoire avec cette victoire ici au stade de l'Aube de Buzyn. Les Troyens signent une nouvelle défaite, 4 défaites et un nul pour les Aubois en ce début de championnat. Des Monégasques qui avaient démarré fort, des Troyens qui avaient eu l'intelligence de laisser venir tout en étant bien en place et en empêchant les Monégasques de développer leur jeu. Et puis les Monégasques par Diop à 2 reprises ont mis 2 buts et il y a eu ce but un petit peu casquette d'Aguilar et Monaco s'impose 2-1.
Merci Fred, bon après-midi et
salut
à
Fred.
Très vite pour d'autres matchs dans le 10. Salut Fred, 14h53. Bon Manu, Monaco, ils sont passés devant puis après ils ont géré.
Ouais.
C'est pas encore le Monaco flamboyant.
Non, c'est pas encore le Monaco flamboyant. Il faut pas oublier quand même, ils ont eu un match très compliqué, très difficile en Ukraine. Mais ils ont été quand même solides aujourd'hui. Mais tu sais, l'arrivée de Rami va faire du bien quand même aux Troyens, hein, parce qu'on sent cette équipe qui manque d'expérience. On n'en sent pas les joueurs encore qui savent jouer en première division.
Et puis ça fera du bien, ils vont bien rigoler aussi.
Merci, mais d'abord, Manu. Il faut jouer au football.
Manu, passe une bonne après-midi.
Pas la semaine prochaine alors.
Non, trêve internationale, on se retrouve dans 15 jours pour le retour de la Ligue 1. Tu vas me manquer, Manu, mais on se passera un petit coup de fil.
On se revoit dans 15 jours.
Ouais, c'est quoi, dimanche prochain, 13h, je t'appelle quand même.
Allez, super.
Salut Manu.
Merci.
Dans un instant, l'intégral foot continue sur RMC avec Timothée Mémon, les 4 matchs de Ligue 1, le multi-Ligue 1 et le Grand Prix de Formule 1 de Spa-Francorchamps. Très bon après-midi.
RMC Intégral Foot Liga Uber Eats.